décadent, même moralement. Et ça réagit pas. Et ça réagit pas. Et de son côté, la France, qui a déjà eu le 7 papes quand même à chez elle, ce qui est déjà quand même plusieurs plumes à son chapeau, est bien contente de pouvoir s'organiser un petit peu avec son clergé qui se soustrait au pouvoir romain, même s'il veut pas soustraire, il soustrait quand même. Une partie des duchés en France acceptent de se soustraire au pouvoir papal, d'autres non, mais en tout cas le gallicanisme, ce qu'on appelle le gallicanisme, donc cette tendance propre à l'Église de France de s'organiser pour tout ce qui est la loi ecclésiastique, le gallicanisme fait plus que poindre son nez, quoi. Nous sommes donc au début du XVe siècle. L'autorité pontificale malmenée essaye de vraiment se réaffirmer. Martin V peine beaucoup. Eugène IV, son successeur, peine énormément. Le conciliarisme a produit ses fruits amers. En France, le gallicanisme avance en 1438, je crois que c'est le 7 juillet. Il s'est passé beaucoup de choses intéressantes les 7 juillet. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le 7 juillet de 1438, à Bourges, autour du roi de France, est déclarée la fameuse pragmatique sanction de Bourges, qui en fait est une déclaration de gallicanisme, ce qui est très mauvais, mais... Qu'est-ce que Eugène IV peut faire? Une grande partie du clergé français, en fait, est d'accord avec ça. Eugène IV proteste, il proteste, il dit non. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est très difficile. Et en fait, nous arrivons à conclure que Philippe le Hardi, avec la pragmatique sanction de Bourges, a réussi, mine de rien, ce que Philippe le Bel, avec sa brutalité, n'avait pas réussi à faire. C'est-à-dire à court-circuiter l'autorité pontificale pour la France. Alors la discussion se perd en conjectures entre le clergé français et Rome. Il n'y a pas de rupture, mais ça va très mal aussi. Ça va très mal aussi. Et la guerre de 100 ans est loin d'être terminée. Je crois qu'elle se termine en 1453. Après Eugène IV, donc on approche du milieu du XVe siècle, nous sommes en 1447, Eugène IV, comme tout le monde, meurt. Lui succède 9 papes. Des papes, tous ou presque issus de familles romaines ou italiennes très influentes. Et très riche. Les Della Rovere, Piccolomini, Borgia, Cibo, c'est des familles. D'un pape à l'autre, alors ce pape-ci est le neveu du prédécesseur, c'est vraiment ça. Ils ne sont pas tous mauvais du tout, hein. Donc leur qualité personnelle est variable. Il y a le pire, comme nous connaissons tous le fameux Alexandre VI. Et il y a finalement le dixième, Léon X, donc je passe sur cette partie, mais ce n'est pas très glorieux ce que je veux dire, ça ne relève pas le Saint-Siège, ces 9 papes-là ne relèvent pas spécialement le Saint-Siège. Et donc le dixième, c'est Léon X. Léon X monte sur le trône de Saint-Pierre en 1513. Il est dans la même lignée, hein, c'est un Médicis, c'est le dernier fils de Laurent de Médicis, qu'on appelle Laurent le Magnifique. À Laurent de Médicis, Machiavel avait écrit notamment Le Prince. Hein, donc, le prince de Machiavel est, entre autres, fait allusion entre autres à Laurent de Médicis. Léon X, un homme de son temps, un humaniste raffiné, devenu cardinal à 14 ans. Son père est donc Laurent le Magnifique. Il travaille en pape sérieux. Il achève le concile de Latran qui avait été commencé. Il traite la question de l'imprimerie. Alors, ça, c'est un élément très important, comme circonstance de la rupture de Luther. L'invention de l'imprimerie dans les années 1455-1456. va permettre de diffuser la Sainte Écriture partout. C'est très important, l'imprimerie. À l'époque, c'est un choc religieux aussi. Donc, il met l'imprimerie sous l'autorité de l'Inquisition. Tout livre religieux doit recevoir l'autorisation de l'Inquisition pour pouvoir être imprimé. C'est Léon X qui fait ça. Il établit quand même un âge minimal pour être évêque, 30 ans. Aujourd'hui, c'est 35 ans, c'est encore raisonnable. Il déclare invalide les élections pontificales qui sont entachées de simonie, donc d'échange d'argent. Donc, et malheureusement, il accepte le Concordat de Bologne, qui est une sorte de mise en application du gallicanisme. Donc, nous avons un Saint-Siège très faible, des guerres très nombreuses en Europe, avec beaucoup de factions, des hérésies pré-protestantes, genre Wycliffe et Jean Hus, qui remettent en question l'autorité papale et qui demandent à ce qu'on revienne à l'Évangile. Nous avons aussi l'invention de l'imprimerie, qui est très importante, et puis aussi la Renaissance, du paganisme, des arts anciens, des arts antiques, l'humanisme triomphateur du début du XVIe siècle. Et Léon X est l'un de ceux-là. Il y a Erasme, exactement là. On est en plein dedans avec Erasme. Nous sommes avec Erasme. Erasme est en pleine action. C'est un prêtre, Erasme. Et donc, on avait arrivé à nos aventures avec Luther. On l'a souvent dit, ce n'est pas Luther qui a fait les temps nouveaux, ce sont les temps nouveaux qui ont fait Luther. Parce qu'il est dans ce contexte-là, dans toutes ces circonstances-là. Au moment du début du XVIe siècle, les princes ont beaucoup de rancune envers la papauté, les peuples sont très mécontents de la manière dont se tiennent les grands et dont se tient l'Église. Le paganisme renaît avec Erasme et avec l'humanisme en général. En Allemagne, dans le monde germanique, c'est une véritable dislocation des pouvoirs. C'est la fin de l'empereur Maximilien Ier, qui est le dernier vrai empereur, qui aura fini d'être empereur en 1519. Donc c'est la fin de son règne, beaucoup trop faible. Et donc, il faut dire que lorsque les gens, le petit noble, ou bien l'intellectuel de service, peut avoir accès à la Sainte Écriture, citation de l'historien Mouret, en étudiant la religion du Christ à ses sources, donc dans la Sainte Écriture, on découvre entre la religion des apôtres et des pères de l'Église, d'une part, et la religion que professe l'entourage d'Innocent VIII, d'Alexandre VI, de Jules II et de Léon X, des différences profondes, sinon dogmatiques, du moins morales. Décidément, cette nature, la nature humaine, à laquelle la Renaissance veut nous ramener, est-elle bonne ou mauvaise dans son fond ? Mouret veut dire par là que la cour pontificale, l'humanisme qui exalte la nature humaine et qui a quand même mis beaucoup de flonflon et de qui a alourdi le message évangélique peut choquer celui qui froidement et loyalement lit la Sainte Écriture. Alors, cette nature humaine, est-ce qu'il faut l'exalter et puis faire dans le faste, ou bien est-ce qu'il faut au contraire faire dans la pénitence, la retenue, le sacrifice? Erasme, le grand référent de l'époque, hein, lui, il dit il n'y a plus d'un saint hors du calendrier de l'Église, hein, donc pas besoin d'être trop rigoureux, on peut y aller. Et cet homme, il est acclamé par la Renaissance allemande. C'est un prêtre, hein. Et en même temps, il fait des retours remarquables vers la rectitude doctrinale. Dans le fameux ouvrage « Éloge de la folie », il le dédicace au pape, à Léon X. Et Léon X lui envoie une lettre de félicitations, qu'on appelle un bref. Cela dit, donc, dans cette situation, même si Erasme n'aura pas de mots trop durs contre Luther, hein, il sera très dur contre Luther, il n'empêche que dans cette situation humanistique de crise de la papauté, je ne vais pas tout redire, en supposant que les problèmes que je viens de vous présenter se posent dans le cerveau et dans l'âme d'un moine angoissé, révolté, un peu exaspéré par tout ça, si ce moine est servi par une éloquence puissante, une verve intarissable, une activité immense, sans mesure, la révolution sociale et politique que tout prépare à l'époque, comme on l'a vu rapidement là dans ce que je vous ai dit, se compliquera bientôt d'une révolution religieuse parce que l'Église elle-même est au bord de l'explosion ou de l'implosion. L'âme vibrante et passionnée du moine Augustin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, de parents paysans, et qui a donc 30 et des ans à l'apogée d'Erasme, Erasme le fascinant, hein, catalyse toutes ses tendances et tous ses mouvements. Cela va faire boum. Tel est le contexte historique lointain puis tout proche de Luther. Le drame va se nouer. Enfin, le drame se noue. Martin Luther est une nature extrêmement riche, en ce sens qu'il est puissante, impulsive, émotive, lyrique parfois, courageuse, sentimentale, impressionnable, et aussi un orgueil indompté. Si on entend par intelligence, ce qu'on entend par intelligence normalement, c'est-à-dire aptitude à saisir l'universel, je ne dirais pas froidement, mais objectivement, à discerner les contours, les nuances du réel, alors il faut dire que la part de l'intelligence raisonnable, donc, chez Luther, est plutôt faible. C'est plutôt un obstiné, un entêté, un borné. Il avait en revanche une très grande intelligence des circonstances particulières, pratiques aussi. Une ingéniosité astucieuse, l'aptitude à percevoir le mal chez autrui ou la faiblesse chez l'autrui, chez l'interlocuteur, l'art de l'expédient, il peut se tirer d'embarras facilement, et il peut même accabler l'adversaire en quelques phrases.